Les aventures de Tom Sawyer. Chapitre 3. Mars et Vénus. Tom se présenta à la tante Polly, qui était assise près d'une fenêtre ouverte dans une grande et belle pièce qui lui servait à la fois de chambre à coucher, de salle à manger et de bibliothèque. Dans la paisible tranquillité d'une journée d'été, le parfum des fleurs, le bourdonnement des abeilles aidant, la vieille dame somnolait sur son tricot. Elle n'avait pas d'autre compagnie que son chat, lequel était lui-même endormi sur ses genoux. Elle avait relevé ses lunettes sur son front. Dans son idée, Tom avait dû déserter depuis longtemps. Elle fut tout étonnée de le voir se présenter avec sa désinvolture habituelle et lui demander « Maintenant, est-ce que je peux aller jouer, ma tante ?»«
Déjà ?
Où en es-tu ? » ?»«
J'ai fini, ma tante. »
« Ne mens pas, Tom, tu sais bien que je n'aime pas ça. »«
Ma tante, je ne mens pas, c'est fini. »
Tante Polly n'en croyait pas ses oreilles. Elle sortit pour s'en rendre compte par elle-même, se disant que si seulement l'affirmation de Tom se révélait vraie, dans la proportion de 25%, ce serait déjà inespéré. Et elle fut bien obligée de se rendre à l'évidence. La palissade tout entière avait reçu non pas une couche, mais trois couches de lait de chaux. Et qui plus est, le badigeon s'étendait même sur une partie du trottoir. Dès lors, l'étonnement de la vieille dame ne connut plus de bornes. Elle lui donna libre cours.
« Ah, ça par exemple ! Il n'y a pas à dire, Tom, tu peux travailler quand tu veux. »
Elle trouva qu'elle en avait trop dit. « Mais je dois avouer que cela ne t'arrive pas souvent. »«
Eh bien, va jouer, et n'attends pas la fin de la semaine pour revenir, ou tu auras affaire à moi. »
Elle était tellement ébahie du résultat qu'elle ramena Tom avec elle jusqu'à l'armoire aux provisions, choisit une belle pomme et la lui donna. Non toutefois sans agrémenter cette largesse d'un petit sermon en vue de démontrer à son neveu que sa pomme lui paraîtrait d'autant meilleure qu'il l'avait méritée comme récompense à la suite d'une bonne action. Et tandis qu'elle terminait son homélie par une citation appropriée des Saintes Écritures, Tom s'adjugea un gâteau supplémentaire. Puis il sortit. Au même moment, Sid gravissait l'escalier extérieur qui, derrière la maison, conduisait aux pièces du second étage. En un clin d'œil, Sid fut entouré d'une grêle de projectiles. Avant que tante Polly, revenue de sa surprise, ait eu le temps de venir à son secours, 6 ou 7 mottes avaient atteint leur but. Tom avait escaladé la clôture et avait disparu. Il y avait bien une grille, mais Tom était généralement bien trop pressé pour prendre le temps de passer par là. En révélant la supercherie du fil noir, Sid lui avait attiré de nombreux ennuis. Maintenant, justice était faite. Tom avait la conscience tranquille. Il fit le tour de la maison et s'engagea dans un sentier boueux qui passait derrière les tables. Là, il était en sûreté. Il ne risquait plus d'être pris ni d'être puni. En hâte, il se dirigea vers la grande place du village où 2 armées de gamins s'étaient donné rendez-vous pour se livrer bataille. Tom était général de l'une des 2 armées. Joe Harper, son meilleur ami, commandait l'autre. Les 2 grands chefs ne daignaient pas combattre en personne. Tranquillement, assis l'un près de l'autre sur une éminence, ils laissaient cela à leurs subordonnés et dirigeaient les opérations au moyen d'ordres transmis par leurs aides de camp. Le combat fut long et acharné. L'armée de Tom remporta une grande victoire. On compta les morts, on échangea les prisonniers, on convint du jour de la prochaine bataille. Les 2 armées formèrent les rangs et se séparèrent, et Tom rentra chez sa tante. Chemin faisant, il passa devant la maison de Jeff Thatcher, et là vit dans le jardin une jeune fille qu'il ne connaissait pas, une charmante enfant aux yeux bleus, aux cheveux blonds, divisés en 2 longues nattes. Elle portait une robe d'été avec des volants brodés. Tom, qui, sur le champ de bataille, venait de remporter un succès retentissant, succomba. succomba sans coup férir au jeu de l'amour. Une certaine Amy Lawrence disparut de son cœur sans même laisser le moindre souvenir. Il avait cru l'aimer à la folie. Ce n'était pas de la passion qu'il avait pour elle, c'était de l'adoration. Et déjà tout cela s'estompait dans le passé. Il lui avait fait la cour pendant des mois et venait, il y avait à peine 8 jours, de lui faire l'aveu de sa flamme. Pendant 7 brèves journées, il avait été le gamin le plus fier et le plus heureux du monde. En un instant, il n'était plus question de rien. Sa bien-aimée disparaissait de son cœur, comme un étranger quitte un salon, sa visite terminée. Il contempla ce nouvel ange d'un œil furtif, jusqu'à ce qu'il vit qu'elle l'avait remarqué. Dès lors, il fit comme s'il ne l'avait pas vu et se livra à toutes sortes d'excentricités afin de provoquer son admiration. Cela dura un certain temps. Tout à coup, au milieu d'une acrobatie dangereuse, il regarda de côté et vit qu'elle s'en retournait vers la maison. Tom se précipita vers la barrière et s'y accouda dans l'espoir que la jeune fille resterait encore un peu. Elle s'arrêta un moment sur les marches et se dirigea vers la porte. Comme elle mettait le pied sur le seuil, Tom poussa un grand soupir. Mais aussitôt sa figure s'éclaira. Avant de disparaître, la jeune fille lui avait jeté une fleur par-dessus la haie. Tom courut et s'arrêta à un pas de la fleur, la main en auvant sur les yeux. Il fit semblant de regarder vers le bout de la rue, comme si quelque chose d'intéressant s'était passé de ce côté. Puis il ramassa un brin de paille et le fit tenir en équilibre sur le bout de son nez en penchant la tête en arrière. Ce faisant, il se rapprochait peu à peu de la fleur. Finalement, il mit le pied dessus. De ses orteils agiles, il la prit et disparut en sautillant derrière le coin de la rue. Pour une minute seulement, le temps de passer la fleur à une boutonnière de sa veste, près de son cœur, ou peut-être près de son estomac, car il n'était pas très fort en anatomie et ne cherchait pas midi à 14 heures. Il revint et jusqu'à la tombée de la nuit recommença son manège devant la grille. Mais la jeune fille ne se montra plus, bien que Tom se berça de l'espoir que peut-être derrière une fenêtre, elle l'avait regardée. Finalement, l'oreille basse, il rentra. Il avait des visions plein la tête. Pendant le dîner, il fut tellement excité que sa tante se demanda ce qui avait bien pu lui arriver. À propos du bombardement dont Sid avait été victime, elle lui adressa une sévère réprimande à laquelle il ne parut pas prêter la moindre attention. Sous le nez de sa tante, il essaya de lui voler du sucre et se fit taper sur les doigts. Il protesta. « Tante, quand c'est Sid qui en prend, vous ne dites rien. Sid n'est pas aussi assommant que toi. Si je ne te surveillais pas, il y a longtemps qu'il n'y aurait plus de sucre du tout. » Elle se dirigea vers la cuisine et Sid, fort de son immunité, étendit la main vers le sucrier comme pour narguer son frère qui avait bien du mal à se contenir. Les doigts de Sid glissèrent. Le sucrier tomba et se brisa. Jubilation de Tom, à un tel degré qu'il épuisa la force de garder le silence. Il se promit de ne pas ouvrir la bouche lorsque sa tante rentrerait, de rester bien tranquille et de ne parler que quand elle demanderait qui avait fait le coup. Alors quel plaisir n'éprouverait-il pas à voir ce frère modèle recevoir un juste châtiment ? Il était tellement excité qu'il tenait à peine en place. Lorsque la vieille dame revint et, contemplant le désastre, lança des éclairs de fureur par-dessus ses lunettes. Il se dit « Nous y voilà !» Un instant après, il était par terre. Une main vigoureuse se levait pour le frapper à nouveau. Tom s'écria « Pourquoi est-ce que c'est moi qui suis puni quand c'est Sid qui l'a cassé ?» La tante Polly s'arrêta perplexe. Tom escomptait un revirement de sa part, mais quand elle recouvra l'usage de la parole, ce fut pour dire « Après tout, tu n'es sûrement pas puni pour rien. Je parie que tu auras encore fait une sottise pendant que j'avais le dos tourné. » Malgré cela, son sens de la justice n'était pas satisfait. Elle aurait aimé réparer en disant quelque chose de gentil. Mais alors, ce quelque chose ne pourrait-il pas être interprété comme un aveu qu'elle avait eu tort ? La discipline en souffrirait. Elle garda donc le silence et se remit à vaquer à ses occupations. Dans un coin, Tom boudait en ruminant ses chagrins. Au fond, la tante Polly était en admiration devant lui. Il le savait et en était très flatté. Mais il répugnait à faire le premier pas et était déterminé à repousser toutes ses avances. Il ne doutait pas qu'au milieu des larmes, un regard de tendresse ne lui fût adressé de temps à autre. Mais il se refusait à en donner acte. Il se voyait déjà gravement malade, sa tante penchée sur lui et implorant un mot de pardon. Mais il se retournerait contre le mur et mourrait sans avoir prononcé ce mot. Alors quel remords ne ressentirait-elle pas ? Et si on le rapportait de la rivière, noyé, les cheveux trempés, son pauvre cœur ayant à tout jamais cessé de battre ? Comme elle se jetterait sur son corps, les yeux pleins de larmes, comme elle supplierait Dieu de lui rendre son Tom, qu'elle promettrait de ne plus jamais, jamais gronder. Mais il demeurerait glacé, blême, immobile, enfin arrivé au terme de ses malheurs. Ces divagations tragiques finirent par le mettre dans un tel état qu'il en avait la gorge serrée et qu'il faillit étouffer. Il avait les yeux pleins de larmes qui débordaient à chaque mouvement de ses paupières et il tenait tellement à ressasser ses chagrins qu'il se refusait à admettre aucune intervention, aucun apaisement venant de l'extérieur. Ce qui se passait en lui était sacré. Et quand revint sa cousine Mary, toute heureuse de se retrouver au bercail après un interminable séjour d'une semaine à la campagne, il se drapa dans une sombre mélancolie et sortit par une porte alors que la lumière et la joie de vivre entraient par l'autre. Il se garda bien de se rendre aux endroits habituellement fréquentés par les jeunes gens de son âge et rechercha des lieux désolés plus en harmonie avec son état d'esprit. Sur la rivière, un radeau lui parut propice à ses rêveries. Il s'assit le long du bord et regarda fixement le courant lugubre et monotone, souhaitant de se noyer tout d'un coup, sans s'en apercevoir, sans avoir à passer par l'inconfortable succession d'épreuves voulues par la nature. C'est alors que lui revint en mémoire la fleur qu'il avait gardée depuis l'après-midi. Il la retourna, fripée, fanée, et elle ne fit qu'aviver l'amère jouissance qu'il éprouvait à souffrir. La jeune fille aurait-elle pitié de lui, elle, si elle savait ? Compatirait-elle et souhaiterait-elle pouvoir lui passer les bras autour du cou et le consoler ? Ou se détournerait-elle de lui, froide comme l'indifférent univers ? Son imagination brodait sur ce thème qu'il tournait et retournait indéfiniment jusqu'à ce que, l'ayant épuisé, il se leva, poussa un soupir et s'enfonça dans l'obscurité. Vers 9h30 ou 10h du soir, il se trouvait dans une rue déserte devant la maison où habitait l'inconnu adoré. Il s'arrêta, l'oreille tendue, n'entendit rien. Au deuxième étage, une bougie projetait sa lueur triste sur les rideaux d'une fenêtre. Était-elle là ? Il escalada la clôture, se fraya un chemin à travers les arbustes du jardin et s'arrêta sous la fenêtre éclairée qu'il regarda longuement et avec émotion. Puis il s'allongea sur le sol, couché sur le dos, les mains croisées sur la poitrine, tenant la pauvre petite fleur qu'elle lui avait donnée. C'est ainsi qu'il mourrait, sous un ciel hostile, sans une main amie pour essuyer les sueurs mortelles de son front blême, sans la présence d'un visage aimé qui lui fit l'aumône de sa pitié au moment de la grande agonie finale. C'est là que sa dulcinée le verrait, au moment où elle sortirait pour jouir de la clarté matinale. Verserait-elle une larme sur ce pauvre corps sans vie ? Pousserait-elle un soupir à l'occasion de la fin brutale et prématurée de cette jeune existence si pleine de promesses ? Tout à coup, la fenêtre s'ouvrit. la voix criarde d'une servante profana le silence religieux. Un déluge d'eau glacée inonda le candidat au martyr qui, comme mu par un ressort, se releva en faisant entendre un grognement inarticulé. On entendit dans l'air le sifflement d'un projectile, un bruit de verre cassé. Quelqu'un grommela une malédiction. Une forme indistincte sauta par-dessus la clôture et disparut dans l'obscurité. Peu de temps après, Tom, déshabillé, prêt à se mettre au lit, jetait à la lumière d'une chandelle un coup d'œil sur ses vêtements trempés. Sid se réveilla. S'il eut un instant la moindre velléité de faire, de près ou de loin, une allusion aux événements de la journée, ce qu'il lut dans les yeux furibonds de Tom lui fit juger préférable de s'en abstenir. Tom se coucha sans faire sa prière, et Sid prit note de cette omission.